France Inter. .fr.
Bonjour Claire Servageant.
Au programme de la marche de l'histoire aujourd'hui.
Ben, cure de rock et de twist, c'est excellent pour les rhumatismes.
On va pouvoir commencer ? Allons-y !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Avoir 20 ans en 1962.
C'est le twist qui vous a porté là où vous êtes. Mais derrière le twist, il y a toute une génération que l'on appelle les copains et les copines.
La génération du soulagement. La guerre d'Algérie s'achève avec l'été. À la fin de l'année, la guerre froide est à son acmé avec la crise des missiles de Cuba. Mais la tension retombe vite et chacun en sort. Comme rassuré, le général de Gaulle lui-même remarque, c'est la première fois depuis des lustres que la France n'a attiré aucun coup de canon dans le monde. La presse respire, enfin autre chose que des combats et des attentats. Dans le sillage d'Europe 1, la radio qui a lancé « Salut les copains », les journaux à fort tirage célèbrent les nouvelles vedettes du rock et du twist. Johnny, Sylvie, Françoise qui fédèrent à merveille une jeunesse très disparate bien sûr, mais qu'entraîne un même élan. La paix est venue, le taux de croissance est de 6 ou 7 points. Bonjour, prospérité. Pendant les 30 glorieuses, les années comptent double, l'air va vite redevenir contestataire et les moments des yéyés, moments innocents, ne vont durer qu'un instant. Et si maintenant que nous avons passé les 30 piteuses, qu'on nous prédit les 30 désastreuses, en tout cas les 20 décisives, on y revenait pendant une demi-heure avec Jean-François Sirinelli. Bonjour Jean-François Sirinelli.
Bonjour Jean Lebrun.
Alors vous êtes une figure de proue connue, notamment à Sciences Po Paris, de l'histoire culturelle et politique. Et puis vous êtes l'un des pilotes d'un numéro de Géo-Histoire, celui de février-mars, qui vient d'être consacré aux 30 glorieuses. Le mot date d'après-coup.
Oui, le mot date d'après-coup, il date de 1979, c'est presque un glas, puisque Jean Fourastier écrit l'ouvrage quand les 30 Glorieuses, au milieu des années 70, se sont terminées.
Alors c'est d'abord un coup de jeune, les 30 Glorieuses, Fourastier 79 parle après-coup des 30 Glorieuses, Alfred Sauvy en 1959, les prédit en les mettant sous le signe de la montée des jeunes.
Tout à fait, il publie cette année-là un ouvrage, La montée des jeunes, qui annonce effectivement la montée d'une vague. C'est-à-dire que la vague du baby-boom est là déjà, ce sont pour l'instant des adolescents, mais les années 60 vont prendre, si j'ose dire, de plein fouet cette vague, et donc les gens qui ont 20 ans en 1962, pour reprendre le titre de votre émission, sont la crête en quelque sorte de cette vague qui s'annonce fournie.
Il est à peu près justifié, le titre, parce que c'est dès 42-43 qu'il y a eu le premier sursaut démographique, curieusement.
Ah, absolument, et vous dites curieusement à juste titre, c'est une sorte de mystère de la démographie, c'est-à-dire qu'au cœur des années noires, la courbe démographique française s'inverse. C'est-à-dire que dans cette France où, dans les années 30, on faisait moins de bébés qu'il n'y avait de défunts, cette courbe reprend, les naissances reprennent, mais bien évidemment, le baby-boom proprement dit, c'est l'après-guerre. C'est à partir de 45-46. Et donc, les gens qui ont 20 ans en 1962, ce sont les avant-gardes, les pionniers, en quelque sorte, de cette génération du baby-boom.
Disons que c'est le résultat, notamment, de la politique familiale mise au point avant le maréchal Pétain et qui proposait qu'on passe dans les familles le seuil de 3 enfants. Vous-même, chez les Sirinelli, Jean-François Sirinelli.
Il y a eu 3 enfants, 3 garçons de l'après-guerre.
Voilà, et c'est d'ailleurs aux membres de la fratrie qu'est dédié un de vos livres qui s'intitule « Les baby-boomers » et qui a été réédité chez Pluriel en 2007. Alors, il faut être précis avec les chiffres pendant cette émission et les dates. La structuration par âge, ça compte, mais en 1962, la structuration socio-professionnelle des jeunes reste classique. Les professeurs d'histoire-géo, comme vous, distinguaient le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire.
Tout à fait, on raisonnait et on raisonne toujours en termes de population active. Et vous avez raison d'insister dès le début sur cet aspect parce que nous allons parler d'une classe d'âge qui, certes, on le verra, est de plus en plus homogène. Pour autant, sur le plan sociologique, elles restent très diverses. On aurait tort de ramener la génération du baby-boom aux étudiants de 1968. L'immense majorité, y compris parmi nos auditeurs, de cette génération sont des auditeurs et des membres d'une génération qui appartenaient et qui appartiennent encore à bien d'autres milieux que les jeunes étudiants de 68.
Alors, les étudiants en 62 étaient encore moins nombreux qu'en 68, 216 000 peut-être. Et les jeunes salariés étaient très majoritaires. Et parmi les jeunes salariés, ceux du secondaire. Quand on dit secteur secondaire, à l'époque, on dit jeunes ouvriers des usines.
Qui êtes-vous ? Que souhaitez-vous ? Aujourd'hui, nous voudrions vous présenter deux portraits d'ouvriers, un jeune homme, une jeune fille. Leurs problèmes, leurs goûts, leurs espoirs. Pourquoi cette information ? Afin que la jeunesse connaisse la jeunesse, d'où qu'elle vienne, où qu'elle aille, où qu'elle veuille aller. Étienne Chevillard, 25 ans, tourneur sur métaux.
Mon père étant malade, il ne rentrait plus assez d'argent à la maison, encore des petits frères et sœurs à l'école. J'ai commencé mon apprentissage à 17 ans et demi chez un patron. Et il fallait absolument que je me mette à travailler.
Une émission de Françoise Dumayet dans le numéro de Géo-Histoire auquel vous participez, les Trente Glorieuses. On voit des photos de Lens, enfin le mineur, c'est le secteur primaire, de Mourinx dans les Pyrénées-Atlantiques, de Boulogne-Billancourt. Le fils d'ouvrier reste d'ailleurs en général ouvrier.
Absolument, et d'ailleurs dans cette France où il y a une capillarité sociale, le mouvement social le moins observable, c'est en milieu ouvrier. Et c'est essentiel. Repartons quand même du diplôme pour rappeler à vos auditeurs que seuls 10% pour la période à laquelle nous nous plaçons actuellement, seuls 10% d'une classe d'âge arrivent au niveau du baccalauréat. Et donc nous sommes en train de parler des 90% autres et parmi ces 90%, ne jamais oublier que 40% de la population active est ouvrière à cette date. Et donc souvent, effectivement, à cette date, les fils d'ouvriers deviennent à leur tour ouvriers. On a vu quelques extraits de l'enquête.
Et alors quand l'allongement des études commence, ça provoque des résistances de la part des classes supérieures. Un des grands succès de 1962, 400 000 exemplaires, c'est la foire au cancre de Jean-Charles. C'est incroyable, tous ces jeunes qui arrivent aux études et qui croient que la devise de la République, c'est liberté, égalité, publicité. Qu'est-ce qu'on était mieux entre nous ?
Oui, là, bon, peut-être que Jean-Charles avait d'autres arrière-pensées qu'un tel élitisme. Encore que le mot élitisme correspond aussi à l'époque, l'élitisme républicain. Mais revenons à nos jeunes ouvriers. Effectivement, le problème, c'est qu'ils vont être pris dans une sorte de tiraillement entre l'allongement des études qui leur donne plus de diplômes et leur statut qui reste un statut souvent qu'ils considèrent comme un statut de non-progression sociale. Et ça entraînera, mais dans la suite de la décennie, vous avez vu pour le moment le ton posé du jeune ouvrier, mais dans la suite, lui ou un autre plus jeune sera l'un des acteurs de mai 68, car on l'oublie trop souvent. Par-delà, là encore, les jeunes étudiants, il y a des jeunes ouvriers qui ont été les bouts de feu du mouvement social qui a touché, au bout du compte, 10 millions de Français à cette date.
68, ce sera d'abord peut-être l'insubordination ouvrière. Quand même, la tendance avec l'allongement des études est à l'homogénéisation. Regardez, même chez les fils de paysans, il y a un phénomène classe d'âge qui fait ressembler davantage les fils de paysans aux fils de citadins. Une formidable enquête de ces années-là, c'est celle de Morin, Burlière et compagnie, à Pleuzévette, jusqu'au bout du Finistère, la notion d'adolescence s'étend.
Ah, tout à fait. Cette enquête est extraordinaire quand on la relit aujourd'hui et n'a pas pris une ride. Et on voit effectivement le phénomène de l'adolescence, mais surtout au sein même de ces adolescents, toute une série de métamorphoses qui sont à l'œuvre, notamment dans le comportement collectif, dans le rôle du bal qui petit à petit devient ringard, dans la surprise partie qui apparaît, mais aussi dans les clivages sociaux qui persistent entre les fils de la bourgeoisie locale, le fils du notaire, le fils du médecin et justement les jeunes ouvriers ou les jeunes paysans.
Bal qui devient ringard, il y a beaucoup de bagarres dans les années 60, en plus dans les bals, les jeunes paysans qui ressemblent de plus en plus à ceux des villes. Une émission d'Aris et Sédoui intitulée « 16 millions de jeunes », les jeunes qui parlent aux jeunes et qui commencent justement dans un bal en déshérence.
Oh, 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 ces images vous semblent n'avoir qu'un lointain rapport avec le malaise agricole, eh bien détrompez-vous. Elles en sont en fait un reflet bien précis. Les jeunes paysans, en effet, acceptent de plus en plus difficilement ces loisirs campagnards d'où l'ennui se dégage.
Pour les jeunes, ça ne devient plus intéressant, l'agriculture.
Et vous envisagez de quitter ce métier ?
Oui.
Pour quelle raison ?
Pour la raison que le point de vue finance, pour l'instant, dans l'agriculture, est vraiment un point délicat.
Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?
Je compte rentrer dans la gendarmerie.
Vous regretterez l'agriculture ?
Je crois un tout petit peu, vous savez. J'étais bien, je suis né dans l'agriculture et j'ai tout le temps vécu au milieu de mes terres.
Et que va devenir l'exploitation de votre père s'il n'y a plus personne pour l'entretenir ?
Ah, mais ça, je ne sais pas. Sûrement en vente ou alors en fermage. Je n'ai pas la moindre idée là-dessus. On n'a jamais posé la question.
Comment expliquez-vous qu'il y ait beaucoup de jeunes comme vous qui quittent le métier ?
Mais vous savez...
On est plus heureux à la ville ?
Ah, moi, je crois. Je n'ai jamais goûté au travail de la ville, mais je crois bien qu'on est bien plus heureux.
Resserrement, le rapprochement, ça va passer par la consommation des mêmes produits et notamment d'un extraordinaire produit de radio. Rendons hommage à la jeune station Europe 1 qui est née en 55 et qui crée Salut les copains.
Oui, le rapprochement des deux extraits est extraordinaire. Il est voulu de votre part, c'est malicieux, mais c'est, ça reflète une réalité. Ces jeunes paysans écoutent les mêmes émissions, ou plus exactement la même émission que les jeunes bourgeois des grands lycées parisiens. Et ça, jusque-là, on ne l'a jamais vu dans l'histoire française. On a une enquête de 1963 qui nous dit, alors après il faut la manier naturellement avec des pincettes cette enquête, mais que jusqu'à la moitié des jeunes gens entre 12 et 18 ans écoutent entre 5 et 7, la moitié d'une classe d'âge, écoutent Salut les copains.
Marie-Chantal dans le 16e, Paulette à Noisy-le-Sec, parce qu'il y avait une majorité de filles, et vous, Jean-François Cirinelli ?
J'écoutais « Salut les copains », effectivement, très souvent, entre 5 et 7 à la sortie.
Et puis, moi aussi. Et puis, « Salut les copains », ça donnait lieu à un journal dans Géo-Histoire. Vous publiez plusieurs photos de Jean-Marie Perrier, qui suivait de très près les vedettes naissantes. Claude François exigeait même qu'il dorme dans la même chambre que lui, au grand désespoir des minettes qui attendaient le chanteur le petit matin.
Jean-Marie Perrier, c'est passionnant parce que, d'une part, vous venez de le dire, il a été le photographe de ses vedettes, ce qu'on appelait les idoles. Hein, et donc, d'une certaine façon, ces photos reflètent une époque. Et en plus, ce sont des photos, j'allais dire, en couleur. C'est-à-dire que c'est la France qui prend des couleurs à cette époque. C'est-à-dire qu'on ne comprend rien à cette France des années 60 si on ne comprend pas qu'on est à la croisée de deux choses. La montée de sève, que nous évoquons depuis un moment, mais aussi la prise de couleur. Et naturellement, les deux choses sont liées. Et ces photos sont plus, j'allais dire, que des créations comme ça pour un journal de jeunes. Elles sont à l'image d'une France qui reprend son souffle. Après, vous le disiez en commençant, la guerre d'Algérie. N'oublions pas que 62, c'est la fin d'un cycle belliqueux, en quelque sorte.
Le transistor, qui est coûteux, est en couleur. Le tourne-disque Tepaz, moins coûteux relativement, est en couleur. Et puis les pochettes des 45 tours, parce que c'est la grande époque de la diffusion industrielle du disque, sont en couleur. Les disques des Chaussettes Noires, d'Eddie Mitchell, des Charrives Sauvages, de Dick Rivers, des Pirates, de Danny Logan, et puis...
J'aime bien Jolie, chaque fois qu'ils chantent, moi je les envie. Que j'ai le cafard ou que je sois gay, c'est toujours à eux que je me confie.
Vous avez reconnu Jean-François Cirinelli ?
Tout à fait, c'était Chouchou, qui était un personnage créé de toutes pièces, à la fois graphiquement dans le journal, et on vient d'entendre sa voix dans l'émission quotidienne.
Vous parlez de dissémination du modèle SLC, Salut les copains, ou d'insémination, c'est-à-dire qu'on retrouve les personnages, les vedettes que vous avez décrits, photographiées par Perrier, dans les journaux à fort tirage.
Oui, c'est ça qui est passionnant, parce que dans le fond, jusque-là, on parle d'un phénomène de vague. Mais ce qui est intéressant, c'est que la vague va subvertir d'une certaine façon la culture des adultes. C'est la première fois dans l'histoire nationale que la classe d'âge la plus jeune impose progressivement ses codes, hein, à la société des adultes, et notamment, vous le disiez, par toute une série de supports de la culture de masse. Par exemple, les journaux comme Ici Paris, France Dimanche, qui sont un peu les ancêtres de ce qu'on appelle de nos jours la presse people, s'emparent de ces vedettes, nous parlent de leurs tourments amoureux, nous parlent de leurs petits ennuis de santé, mettent en avant Sheila, petite fille de français moyen. Et donc, on a petit à petit, effectivement, cette subversion au sens de phagocytage, en quelque sorte.
Johnny Hallyday devient héros de romans photo dans Nous deux, et même la télévision nationale en noir et blanc le reçoit, et ses collègues jeune vedette, Françoise Hardy, par exemple, passe trois fois cette année 62 dans l'émission Le Petit Conservatoire de la Chanson de Mireille.
Bon, silence les enfants. Asseyez-vous doucement, s'il vous plaît. Valérie, s'il vous plaît. Si vous étiez à l'heure, Valérie, ça serait gentil. Asseyez-vous. Mademoiselle Hardy, je vous connais depuis combien de temps, mademoiselle Hardy?
Depuis un an.
Vous avez quel âge maintenant?
18 ans.
Est-ce que vous avez l'impression, mademoiselle Hardy, que vous avez fait des progrès? Vous faites vous-même vos chansons?
Oui.
Votre musique et vos paroles?
Oui.
Expliquez-moi.
Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que j'ai fait un peu de progrès au point de vue de la fabrication des chansons.
Oui.
Mais en interprétation, je ne suis pas contente de moi.
Moi, mademoiselle, est-ce que du point de vue alors de l'évolution de l'inspiration, est-ce que vous avez l'impression d'avoir changé entre 17 et 18 ans?
Pas tellement.
Pas tellement?
Montrez-moi la chanson. J'espère que ça viendra.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul. Seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennui. Personne.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avoir 20 ans, 62, avec Jean-François Cirinelli qui participe au numéro de Géo Histoire consacré aux 30 glorieuses. On a mis assez brièvement Françoise Hardy parce que Jacques Sigal, notre réalisateur, nous a dit ne nous expliquez pas que 20 ans, 62, c'est le plus bel âge de la vie. Ça me rend mélancolique le souvenir de ces années-là. La dissémination de Salut le copain et de Tous les garçons et les filles, est tel qu'il y a même un journal du Parti communiste qui s'appelle Nous les garçons et les filles.
Absolument, parce que Salut les copains va faire des petits, ou plus exactement des concurrents, et même les partis politiques, d'une certaine façon, vont s'emparer du phénomène. Et il y avait effectivement Nous les garçons et les filles, où on nous parlait à la fois des idoles et des jeunes ouvrières du nord de la France.
C'est quand même beaucoup moins de succès que Salut les copains, qui arrive aux millions d'exemplaires et qui veut fêter son anniversaire en juin 63, sur la place de la Nation.
Oui, nous sommes un an après la naissance du mensuel, et au bout d'un an, ce mensuel a 1 million de lecteurs. C'est une réussite de presse extraordinaire, et pour fêter cette réussite de presse, pour également réunir les copains, ben on annonce dans les jours qui précèdent, les semaines qui précèdent, la tension monte, l'impatience en tout cas monte, on annonce ce grand concert de la Nation, avec naturellement les idoles, et en premier lieu Johnny Hallyday. Et ce concert a lieu, 150 000 personnes, quelques bousculades et des commentaires souvent acerbes. Et c'est intéressant parce qu'il y a tout le phénomène de représentation des jeunes à cette date.
Philippe Bouvard, quelle est la différence entre le twist du cours de Vincennes de juin 63 et le discours d'Hitler au Reichstag, sinon un certain parti pris de musicalité? Vous dites quelques bousculades. Il n'y avait pas des blousons noirs qui rôdaient avec le couteau à cran d'arrêt dans le perfecto?
On l'a dit, c'est très compliqué parce qu'il y a une part qui est un peu tragique. On a dit qu'il y avait eu un viol. Je veux dire, on a dit que parce que là, on ne l'a jamais véritablement établi. Donc cet aspect-là, naturellement, est tragique. Pour le reste, on est en partie dans le domaine du fantasme et de la représentation collective. C'est-à-dire qu'on a dit, il y a des blousons noirs. Il y en a eu quelques-uns. Mais en même temps, réunir 150 000 jeunes avec aussi peu, je laisse de côté hein, ce que je disais du viol, mais aussi peu, au bout du compte, de bousculades en fin de journée, parce qu'on n'a pas compté un certain nombre de blessés, c'est toute une époque qui renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure du petit conservatoire, c'est-à-dire ce sont des jeunes qui sont des jeunes plutôt tranquilles à cette date.
Tout de même, la question que posait Paris Inter, notre aïeul, était bien justifiée.
Le twist est-il dangereux? Le twist qui déforme les pantalons et les robes déforme-t-il aussi la colonne vertébrale? Faut-il, après chaque séance de twist, aller consulter un chiropracteur? Autant de questions angoissantes auxquelles Fernand Lotte va répondre en compagnie d'une éminente personnalité du monde médical, le professeur Delbar de l'hôpital Cochin.
J'ai peut-être quelques notions sur la pathologie du squelette, mais je n'ai aucune notion en ce qui concerne le twist. Je suis bien persuadé que si des collaborateurs avaient observé des lumbagos ou des sciatiques ou des lombalgies consécutives à des exercices de twist, ils me les auraient montrés, ne serait-ce que pour voir ma réaction et pour voir mes commentaires. Donc je n'ai pas vu de lumbago, ni de lombalgie, ni de lombosciatique consécutive au twist. C'est peut-être parce que le twist est dansé essentiellement par de très jeunes personnes qui ont encore une colonne vertébrale en excellent état.
Vous remarquerez que le médecin refuse de répondre à une question qui est mal posée aujourd'hui. On demanderait, est-ce que le métal est satanique?
Tout à fait.
Alors, à propos de diable, si vous permettez, Jean-François Sirinelli, le diable n'est-il pas dans les corps? Marcel Carné, un petit peu avant l'année 62, dans un film fameux qui s'appelle « Les tricheurs », laissait entendre que les comportements sexuels des jeunes, eux aussi... C'était un peu brutalisé.
La vérité?
Je te jure.
Est-ce que tu attends quelque chose de la vie?
L'amour.
Mais un amour de quelle sorte?
Le grand, le seul, l'unique.
Comme dans les romans de gare?
Ça, exactement. Espèce d'idiot, je mentais pour voir ta tête. Allez, on recommence.
Ok. Tu es au quartier depuis combien de temps?
2 ans.
Depuis 2 ans, combien de gars t'es-tu envoyé?
Je serais incapable de les compter.
Pourquoi le fais-tu?
Parce que j'aime ça.
Et avec moi, c'était comment?
Parfait.
Mieux qu'avec Bob?
Techniquement, oui.
Qu'est-ce que tu penses de moi?
Que tu ne cherchais à épater les autres que pour t'épater toi-même. Parce que la saloperie, la révolte, c'est encore un remède à l'ennui.
Pas con.
Pascal Petit et Laurent Terzieff, Bob, c'est Jacques Charrier, le mari de Brigitte Bardot, vous pensez?
Oui, alors, Les Tricheurs, c'est 1958. L'extrait est formidable, sauf que c'est un extrait où Pascal Petit veut rendre l'un de ses interlocuteurs jaloux. Donc, on est, j'allais dire, dans l'escalade verbale, qui n'est probablement pas le reflet des pratiques sexuelles à cette époque. Mais, surtout, nous, on est à Saint-Germain-des-Prés et on est en milieu étudiant. Donc, il y a une transgression, mais qui n'est pas représentative à cette date, en 58, de l'ensemble de la jeunesse française. Mais en même temps, le film de Marcel Carné a eu un énorme succès parce que la société française s'inquiète à propos de ces jeunes, s'inquiète à propos de leur sexualité, s'inquiète sur d'éventuelles transgressions. Et donc, ce film reste un reflet intéressant.
Alors, succès, je ne sais pas si ça a été immédiat, mais c'est venu peu à peu. Et le succès ne concernait pas les plus jeunes, parce que j'imagine qu'un film de ce genre était interdit aux mineurs. Alors, il y avait une commission de censure qui veillait au cinéma. Il y avait pour les publications de jeunesse une commission qui veillait à l'application des textes de 49. Les jeunes de 20 ans avaient une formation bornée.
Oui, c'est une génération protégée pour toute une série de raisons. Et on a les textes de 49. C'est intéressant, 49, c'est aussi l'année la plus prolifique, l'année où il y a le plus de naissances. Hein. Et donc, cette génération, par exemple, en 55 ou en 56, quand dans des bandes dessinées de western, il y a un poteau de torture, eh ben, il faut faire attention, c'est censuré. Je rappelle qu'à la même époque, c'est la bataille d'Alger et il y a de la torture dans la République. Donc, vous voyez, l'écart entre la protection, et tant mieux pour cette génération, mais qui la déconnecte un petit peu des malheurs du temps. Et donc, quand viendra le temps de la paix dans les années 60, c'est une génération déjà adolescente à ces dates qui plonge directement dans cette paix, puisqu'elle a été protégée même dans les violences de la République une décennie plus tôt.
On était mineurs jusqu'à 21 ans. Les vedettes du rock et du twist vivaient souvent chez leurs parents.
Absolument, et ils ne votaient pas.
Et il y avait des interdictions au moins de 13 ans, 16 ans, 18 ans? Comment ça s'organise?
Alors, il faudrait reprendre la loi qui a évolué, et surtout que les seuils eux-mêmes ont évolué. Mais si on revient aux tricheurs, je pense qu'effectivement, les tricheurs étaient interdits au moins de 18 ans. Je ne voudrais pas trop m'avancer. Alors, je disais énorme succès, peut-être pas, vous m'avez repris à juste titre, mais énorme écho, parce que c'est un sujet de société à cette époque.
Dites-moi, vous échappiez à la surveillance de votre mère qui vous dédiait les Baby Boomers, votre livre sur cette génération, en allant voir des films interdits au moins de 16 ans.
Moi, en 1958, j'ai 9 ans, hein, donc la question ne se pose
oui,
pas.
Oui, mais en 62. Hein,
en 1962, non, je suis un jeune adolescent relativement paisible.
Vous n'allez pas voir les films de Vadim avec Bardot? Je parlais de Bardot.
Non, de toute façon, je pense que l'accès de la salle m'aurait été interdit.
Et donc, vous êtes protégé comme ces jeunes hommes et ces jeunes filles qu'on a vues au mois de février dans un documentaire de France 3 qui s'intitule « Avoir 20 ans » en 62, comme notre émission signée René-Jean Bouillet. Et des jeunes d'aujourd'hui regardent ce que disaient les jeunes de 62. Les premiers sont très étonnés.
C'est de plus en plus difficile parce que vous sortez qu'une fille qui est très bien, puis 10 mètres plus loin, il y en a encore une qui est encore plus bien. Je lui raconte un tas de trucs, quoi. Je la bluffe le plus possible.
Vous la faites rire?
Oui, il me semble que quand elle rit...
Elle commence à marcher.
Ouais, c'est pas qu'elle commence à marcher, mais c'est que je marque des points, quoi.
Il y a des jours où on a tellement le cafard, et lorsqu'on trouve un jeune homme qui est bien gentil avec nous, on est bien content d'aller avec lui. Et on se laisse entraîner, c'est fatal, on se laisse entraîner, et puis, vous savez, il arrive ce qu'il doit arriver, quoi. Et c'est souvent la jeune fille qui apporte les conséquences.
Est-ce que vous estimez que c'est nécessaire d'avoir des expériences sexuelles avant le mariage?
Pas pour une femme, non. J'ai envie de rester pure pour mon mari.
Mais les garçons, alors c'est quoi? C'est différent de vous? Il sera pas pur, lui.
Oui, mais ça fait rien. Je trouve qu'un garçon, quand même, a besoin d'avoir des liaisons. C'est tout à fait naturel.
Moi, je suis assez stricte là-dessus. Je crois qu'elles doivent garder une certaine pureté. Tout en étant très gaies, très évoluées, je trouve qu'elles doivent rester pures.
André Mauroy, le vieil académicien dans Elle, dit il y a les jeunes chiens et les biches, et le jeu, il est évidemment plus favorable aux jeunes chiens.
Oui, là aussi c'est compliqué parce que tout va changer au milieu de la décennie. N'oubliez jamais que ce qui rythme les travaux et les jours jusque vers 64-65, ce sont des chansons d'amour qui parlent du flirt. Et donc là, on a une jeune femme qui nous dit « oui, ces hommes, je vais avec lui, l'homme dit « je marque des points ». Reste que toutes les enquêtes nous montrent que, notamment la question de la virginité, puisqu'il en était explicitement question dans l'interview de la jeune fille, cette question... Le basculement, si j'ose dire, c'est à partir de 65-66. Là, nous sommes en train de parler de cette France de la première partie des années 60.
62, c'est un instant, et les années comptent double ensuite.
C'est ça qui est passionnant dans les années 60. Il y a une accélération de l'histoire. Alors, je sais bien que c'est une sorte de topos, si vous voulez, mais il y a une accélération de l'histoire qui fait que la même jeune fille, probablement apprentie dans un lycée professionnel, le même jeune bourgeois qui sont les copains de 62-63, deviennent des camarades contestataires en 66-67-68. Ce sont les mêmes. Et les années comptent double, comme vous le disiez.
Et en matière sexuelle, ce sont les mêmes jeunes filles qui ont pratiqué, allez, je vais parler en termes économiques, le report de la satisfaction, qui font ensuite l'apprentissage rapide de la consommation.
Oui, toutes les enquêtes vont dans ce sens, effectivement.
Et il y a quelqu'un d'assez intéressant qui marque l'accélération. Ce n'est pas Johnny qui prend des virages sur l'aile plusieurs fois par an pour suivre les modes. C'est, en 65, un chanteur qui apparaît, que vous aimez bien.
Oui, c'est le chanteur Antoine. Alors, parce que là, c'est passionnant. En 66, alors il apparaît, vous avez raison, en 65, mais en 66, ce sont les élucubrations. Et il dit, par exemple, au détour d'une strophe, mettez la pilule en vente dans les monoprix. C'est passionnant, pourquoi? Parce que c'est un an avant la loi de Wirth. Donc, c'est une transgression. Mais un an à peine plus tard, ça n'est plus une transgression. Enfin, sauf qu'on ne les vend pas dans les monoprix, mais dans les pharmacies.
Jean-François Cirinelli, les 30 glorieuses géohistoires, le numéro de février, vous avez publié les Baby Boomers. On aurait pu, comme pendant les résultats de la mise en ballotage du général de Gaulle en décembre 65, entendre Antoine. Mais le problème, c'est que notre réalisateur Jacques Sigal fait d'autres choix.
J'aime pas le rock. J'aime pas le rock. Et je vous dis que j'aime pas le rock.
Il n'aime pas le rock.
Ah non, j'aime pas le rock. Alors je déteste le rock, j'ai horreur du rock.
Il n'aime pas le rock.
Je hais le rock, j'abomine le rock, je maudis le rock.
Pourtant le rock c'est battre quoi.
Alors dans l'équipe, les goûts sont partagés. La mission a été préparée par Camille Poux-Jalagui avec Frédéric Martin et Franck Olivard. À la technique, Yann Bouillot et Gilles Gaillard. Et le plus jeune d'entre nous, Nicolas Slimani. Demain, nous parlons de la manière dont s'est constituée la question du génocide arménien chez les Arméniens de la diaspora et d'Arménie. Il est 14h, vous écoutez France Inter.